Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Gabriel Sec, Jean-Michel Lavigne et Grégory Sirgue. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du rugby avec la deuxième journée du top 14, du football avec la quatrième journée de Ligue 1 et enfin de la Formule 1 avec un retour sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Nous enchaînerons ensuite avec un débat sur la fête du sport proposée par le président de la République et nous terminerons, comme d'habitude, par les coups de cœur de nos invités. On va donc commencer par vous, Jean-Michel Lavigne, et le top 14, et Toulouse qui est déjà aux avant-postes.
Oui, 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 Toulouse aux avant-postes, en gagnant ce matin contre La Rochelle, un match et un combat, c'était pas facile hein, pour les Toulousains, mais ils ont su comme... ils ont su vaincre effectivement par ce gros combat qu'ils ont relevé devant, parce que devant il y avait La Rochelle est quand même formée pour ce jeu de devant de percussion et ma foi les Toulousains ont été présents et puis on finit par gagner le match comme bien souvent.
35 à 27 pour donner le score, donc 4 essais à 3, donc vous l'avez dit, une grosse bataille au niveau des avants. Ce qui est toujours impressionnant avec Toulouse, c'est qu'ils sont déjà là avec Antoine Dupont dans les tribunes, avec Biles dans les tribunes.
Avec Movaca qui était blessé, pas mal de blessés.
On sait que tous les postes sont au minimum doublés, voire triplés.
Ouais, l'année dernière, ils avaient déjà, durant la saison, fait jouer plus de 60 joueurs.
Voilà,
je crois.
Qui était une saison particulière avec une Coupe du Monde.
On joue à 15 au rugby et qu'on a 60 joueurs capables de relever le défi du top 14, on est armé pour passer la saison, ce qui a malheureusement manqué au Béglé l'année dernière.
De la profondeur de banc.
De la profondeur de banc, oui, c'est ça.
Gabriel Sec, vous avez suivi cette troisième journée de top 14?
Oui, j'ai suivi un petit peu, et effectivement, pour revenir sur ce match, sur cette grosse affiche, un très très gros match, une grosse intensité, des visiteurs très vaillants, mais comme vous le dites, Olivier, c'est ce qui est surprenant, c'est qu'on n'est que la deuxième journée, et on sent déjà un Stade Toulousain qui maîtrise parfaitement son jeu, quoi. Qui s'affole pas, même dans les temps faibles, et qui panique pas et qui maîtrise parfaitement son adversaire, un adversaire qui va être très 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 difficile à battre durant la saison, je pense.
Voilà, dans la continuité pour le Stade Toulousain de la fin de saison dernière, où il termine...
33e match, je crois, 33e victoire d'affilée.
Voilà, ça pose un peu les bases de la problématique pour les adversaires à venir du Stade Toulousain.
Et pour l'anecdote, ça fait 2 ans et demi que personne n'est venu battre Toulouse chez eux, donc l'invincibilité continue.
À Ernest Vallon, le challenge est donc à la hauteur du Stade Toulousain. On peut quand même noter dans ce match que Teddy Thomas, le Rochelais, a quand même mis deux très beaux essais.
Très bien, ouais, super, parce que il n'était pas à son poste habituel, donc il jouait dans les trois quarts. Les spécialistes commentateurs du match l'ont fait remarquer en début de match en disant est-ce que c'est la bonne solution. Ma foi, il a prouvé en marquant les deux essais. Qu'il était bien à ce poste-là. Il s'est blessé à la fin du match, donc en espérant que ce ne soit pas trop grave, mais il a joué son rôle à fond et c'était une carte à jouer, et ils l'ont bien joué, et ma foi, on ne peut que se féliciter de
c'est ça, de c'était, sa c'était plaisant pour nous de le revoir en bonne forme et aussi décisif.
C'est ça.
Sur les autres résultats, l'UBB est passé pas loin d'aller gagner à Lyon, mais seulement est passé pas loin. Voilà, une dernière pénalité après la sirène.
C'est ça, problème récurrent à l'UBB. Un début de deuxième mi-temps pareil. Alors bon, certes, les deux cartons jaunes subis par Leloup en fin de première mi-temps leur a permis de marquer ces deux essais qui les font revenir à 15-15 à la mi-temps. Mais ils n'entament pas de façon géniale la deuxième. Et ma foi, sur la fin, effectivement, alors c'est là où on voit que peut-être cette année, l'UBB pourrait finir les matchs mieux qu'il l'avait fini l'année dernière. Puisqu'on voit sur la fin du match quand même l'UBB qui revient et qui marque cet essai.
À la 79e avec Damien Penaud.
C'est ça, complètement. Et on se dit, il y a encore du carburant pour la fin du match. Et ça laisse espérer Des fins de match plus joyeuses pour l'UBB.
Ça dénote quoi, à votre avis, d'un manque de concentration sur le renvoi
Ah oui, après, j'ai entendu Yannick Bru qui se plaignait de la faute sifflée. Je n'ai pas revu le match, donc je ne peux pas non plus être aussi ferme que lui. Mais effectivement, ça fait deux fois en fin de match comme ça. Le bonus offensif laissé de côté contre le Stade français et celui-ci où on gagne certes un point avec le bonus défensif, mais on aurait pu en prendre quatre quoi, et se retrouver en haut du tableau avec le Loup et Toulouse.
Voilà, donc pour l'UBB, il va falloir un petit peu faire attention dans les matchs à venir, sachant que le calendrier n'est pas simple en ce début de top 14 pour l'UBB.
On sera le Racing le prochain match. On va à Toulouse, donc la revanche de la finale.
Voilà.
Bon, voilà. Moi, ce que je relèverais à Bègles-Bordeaux, c'est le match de Gazzotti en numéro 8, qui avait été blessé tout le long de l'année dernière, mais qui revient très fort. Et c'est un jeune qui est champion du monde des moins de 20 ans. Et puis à la charnière, le Carberry, qui a pas mal pour son premier match, qui a en remplacement de Jalibert sur la première mi-temps, qui a tenu son poste aussi. Donc, c'est le début du championnat. Hein, il ne faudra pas laisser les points trop en route quand même. Quoi.
Voilà. Sur les autres matchs, on a aussi un match très serré entre Toulon et Castres, où Castres s'est imposé 30-28.
C'est ça.
Toulon s'est imposé 30-28 sur Castres.
Ouais.
On a le Stade français qui a frisé la correctionnelle aussi contre Vannes.
Hein,
un bon début de top 14.
Complètement, qui se sont retrouvés en deuxième mi-temps et qui ont mis trois essais en moins de 7 minutes, je crois.
Et qui termine à juste 3 points
du
Stade français.
Et
qui prend son premier point en
bonus défensif.
Ah oui, qui prend son premier point, effectivement. Ouais.
Voilà, avec le Stade français qui, clairement, a des errements défensifs importants. Ils l'ont tous souligné à la fin du match, donc il va falloir aussi qu'ils fassent attention à ça. Le carton du jour est à mettre à l'actif de Pau,
oui.
Qui a mis 51 points à Bayonne, 51-29. Là, gros match des Palois, de la section paloise.
Ouais. 7 essais, je crois.
7 essais, c'est ça.
C'est ça. 7 essais. La formation paloise est habitué à faire du beau jeu, à envoyer du jeu derrière. Et là, ils ont confirmé, effectivement, en gagnant largement contre l'équipe qui recevait.
Oui, contre Bayonne. Il nous manque deux résultats. Montpellier est allé s'imposer à Perpignan. Alors, pour le coup, pas à Perpignan, mais sur le terrain de Biarritz. Mais contre Béziers,
à la Méditerranée, oui.
Contre l'USAP, 26-7.
Ouais.
Et puis sur le dernier match de cette deuxième journée de top 14, le Racing s'est imposé à domicile, enfin là non plus pas à domicile, contre Clermont, 33-20. Voilà, donc,
c'est pas mal pour Montpellier qui gagne donc ces deux premières journées. Hein, pour rappeler qu'ils étaient ils avaient gagné chez eux la semaine dernière aussi, donc ça change un petit peu de la fin de saison qu'ils ont pu connaître. Par contre, est-ce qu'on peut se poser des questions déjà sur Perpignan, déjà, qui est déjà à deux défaites en début de championnat? Ça va être compliqué avec une équipe qui n'a pas forcément les mêmes budgets que le reste du top 14. Donc à voir, je ne sais pas.
Jean-Michel Lavigne, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison des Perpignanais?
Ah ben, c'est difficile, hein, on les voit déjà au fond du tableau. Bon, on sait que les Catalans, quand même, c'est ancré dans leur cœur, dans leur mémoire, dans leurs ADN. Ça va, je pense, c'est le début. Alors, en espérant que la mayonnaise prenne, comme on dit, mais bon, c'est pas fini. C'est pas fini.
Non,
moi, je crois en eux parce que les 100 et or, c'est quand même quelque chose. Quoi.
Et comme ils nous ont habitués un peu à faire l'ascenseur ces dernières années.
En même temps.
Voilà.
C'est ça.
Donc,
prochain déplacement à Castres quand même. Hein.
Voilà,
c'est pas facile de gagner.
C'est costaud,
oui.
Là-bas. Ouais.
Ce top 14 pourrait être difficile pour l'USAP.
On voit que les matchs en fait, se gagnent bien souvent dans les dernières minutes. Dans les 5-6 dernières minutes, il y a un tiers des matchs qui se finissent,
qui basculent
au dernier moment.
C'est la profondeur de banc qui va faire la différence du coup pour avoir de la fraîcheur en fin de match.
C'est ça. Et puis les cartons récoltés aussi parce qu'il y a des nouvelles règles aussi qui sont arrivées, qu'il va falloir
assimiler
et Et donc, tout ça, ça fait des...
Qui vont avoir un impact, au moins sur les premières journées, le temps que les joueurs comprennent...
Complètement.
Pas qu'ils n'ont pas compris les règles,
mais pas facile aussi, vous savez...
Vraiment, ils intègrent dans leur jeu.
Dans l'action, effectivement, on voit des plaquages, effectivement, qui sont un peu justes, maintenant jugés dangereux. Et dans l'action, il est hyper difficile. Alors, c'est sûr qu'avec un ralenti, on voit bien, mais les moments, on se dit... Est-ce que c'est toujours du rugby ou on joue à toucher Parce que c'est vrai que quand on rencontre un deuxième ligne de plus de 2 mètres et qui va plaquer un numéro 9 qui fait 1m70, ben c'est difficile
de se baisser, tout ça.
Il va falloir apprendre. Mais...
Bon, on va suivre ça dans les prochaines semaines. On va enchaîner avec le football et le PSG donc, qui conserve les commandes de la Ligue 1 grâce à sa victoire sur Brest 3-1. Marseille qui garde le cap en battant Nice 2-0 et Monaco est en forme aussi puisque les Monégas sont 3e de Ligue 1 et sont allés gagner à Auxerre 3-0. Gabriel Sec, qu'est-ce que vous retenez vous de cette 4e journée de championnat ?
Alors, pour commencer effectivement donc Paris qui fait un match pas flamboyant mais qui fait un match sérieux qui était mené hein, quand même par Brest et qui revient au score grâce à Dembélé qui inscrit un doublé, faut le souligner hein, quand même hein, est-ce que c'est enfin l'année de Dembélé?
En tout cas, il marque des buts. Il marque des buts avec l'équipe de France.
Exactement.
Il marque des buts avec le PSG.
En l'espèce de quelques matchs, il est déjà à 4 buts.
Il a déjà inscrit autant de buts
que la saison dernière.
Que toute la saison dernière.
Ouais, c'est ça. Donc, on sent qu'il est en forme. Alors, est-ce que c'est le départ d'Mbappé qui fait qu'il prend un peu plus de responsabilités au sein de l'équipe? En tout cas, on sent quelqu'un qui a l'air à l'aise. Donc, voilà. Brest, malgré tout, qui a fait une belle opposition, hein, faut le rappeler. Ça nous permet de comprendre encore une fois, d'expliquer pourquoi ils ont fini 3e du championnat l'année dernière. C'était pas anodin. Ensuite, pour revenir sur le premier match de cette journée, c'était donc Saint-Etienne contre Lille.
Contre Lille.
Donc première victoire de Saint-Etienne en Ligue 1 cette année.
À Geoffroy Guichard, 1-0.
Geoffroy Guichard. Donc belle victoire des Verts qui va leur faire du bien au moral, je pense. Le Lox, par contre, troisième défaite d'affilée. Hein, après, il y a eu une défaite contre le Slavia Prague en Coupe d'Europe et lors de la troisième journée, contre le PSG. Donc, un petit sursaut va être attendu, je pense, pour les Lillois dès cette semaine en Coupe d'Europe.
Exactement.
Donc, à surveiller. Effectivement, Monaco qui met une valise à la JO Auxerre, hein, Auxerre complètement dépassé. Là, clairement, on a senti un écart de niveau important entre une équipe qui joue l'Europe et une équipe qui a tout juste le niveau Ligue 1, en fait, hein, qui arrive de Ligue 2.
On rappelle qu'Auxerre est promu cette année en Ligue 1.
Tout à fait, donc, et qui va avoir déjà dès la semaine prochaine un match à un gros enjeu parce qu'il va se déplacer à Montpellier. Montpellier, d'ailleurs, ça me permet de rebondir là-dessus. Montpellier qui se déplaçait à Rennes.
À Rennes, qui a perdu 3-0.
Qui a perdu 3-0, donc ça fait pour Montpellier.
Un seul point en 4 matchs.
C'est ça, donc un nul, 3 défaites. Et déjà un candidat à la descente, il ne faut pas oublier qu'ils sont interdits de recrutement cette année. Donc, ça va être très très compliqué.
La saison risque d'être longue et compliquée pour le Montpellier. Hein.
Ça va être un match déterminant avec la réception d'Auxerre pour eux. Concernant donc le match olympique de Marseille, forcément le club, mon club de cœur, donc une belle victoire 2-0 pour fêter les 125 ans du club avec des superbes animations dans les tribunes, les 30 ans des MTP au virage nord, les 40 ans du commando ultra au virage sud, une ambiance formidable. Et puis un match sérieux de nos Olympiens. Une très belle équipe de Nice quand même, hein, qui était meilleure défense de Ligue 1 l'année dernière. Et on a compris pourquoi aussi cette année. Hein, parce que, mis à part le départ de Todibo, il reste très très solide. Je pense que c'est une équipe qui, quand elle sera au top, offensivement parlant, hein, faut pas oublier qu'ils ont Mofi qui est blessé, Terem Mofi qui est blessé, Gaëtan Laborde qui est blessé aussi. L'attaquant de Dortmund, Moukoko, qui est arrivé que la semaine dernière, donc qui manque de temps de jeu. Je pense qu'une fois que les repères offensifs seront pris, cette équipe de Nice va être très difficile à bouger. Et puis après, on peut aussi parler de la défaite un petit peu cruelle ce matin du FC Nantes.
Du FC Nantes à domicile contre Reims, 2-1.
C'est ça, en toute fin de match, quoi. Donc il y a de quoi un petit peu rager pour les Nantais, hein, qui, il ne faut pas l'oublier, était deuxième ex aequo avec Marseille. Et enfin, on a eu donc le TFC, donc le Toulouse Football Club, qui a remporté son premier match contre le Havre, 2-0. Et le Racing Club de Strasbourg, qui a fait match nul contre le SCO à la maison, en étant réduit à 10. Et enfin, en clôture de cette journée,
voilà, un match sans but ce matin entre Lens et Lyon.
Mais un match quand même très solide, hein. Un match très très solide. Je pense que les Lensois peuvent remercier Samba qui a fait un très très gros match. Il a rappelé son statut d'international à tout le monde. Hein. Est-ce qu'il a voulu envoyer un message à Deschamps ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est présent et c'est lui qui permet à Lens de sortir de là avec un point du match l'une. Et puis côté lyonnais, on peut souligner un petit peu le réveil de Tolisso, qui fait un match très sérieux aussi. Voilà, un match très équilibré qui aurait clairement pu tourner en faveur de l'Olympique lyonnais, je pense. Donc là, à suivre.
Bon, on suivra ça donc dès le week-end prochain avec la cinquième journée. Mais d'ici là, de cette semaine, ça sera la première journée de Ligue des Champions qui commencera donc mercredi matin pour nous avec un déplacement de Lille, on l'a dit tout à l'heure, à Lisbonne pour y affronter le Sporting. Jeudi matin, le PSG recevra Gérone, le club espagnol. Et vendredi matin, Monaco recevra le Barça et Brest recevra les Autrichiens du Sturm Graz. Donc une grosse semaine européenne avec des nouveaux formats, on le rappelle, un nouveau format de la Ligue des Champions avec 36 équipes.
C'est ça, et donc par équipe.
Étalé sur 3 journées au lieu de 2 les années précédentes. Donc encore plus de football à suivre tous les matins en se levant.
Et c'est ça, beaucoup plus de football à suivre, ça va être intéressant. Moi je suis quand même un petit peu, j'ai un petit mébol quand même, hein. J'attends de voir la fin de saison parce que avec la fatigue des organismes, faut pas oublier qu'on sort d'une Coupe d'Europe. Là on part sur un championnat qui va être costaud, du moins pour la Ligue 1 c'est certain. Il en sera de même pour les 4 ou 5 autres gros championnats. Et si on rajoute des matchs de Coupe d'Europe, ça risque de faire beaucoup pour les machines.
Ce donc, à quoi on peut rajouter pour une bonne demi-douzaine de clubs européens, les principaux, du monde des clubs, nouveau format à 18
tout à
équipes.
Fait. Donc, il va y avoir de la casse, je pense, en fin d'année.
Les organismes vont être très, très sollicités. Et là, on parlait de profondeur de banc au rugby tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir la même problématique en football
cette année. Exactement. Donc, alors, c'est vrai que c'est un bonheur pour le spectateur. Pour le joueur et le physique du joueur, ça va prendre en compte.
Puis se plaignait déjà d'avoir des calendriers trop longs. On est venu recharger des calendriers
Exactement. Déjà
surchargés.
C'est ça. En fait, les joueurs continuent à se plaindre et la FIFA ou l'UEFA, les organes de décision, continuent à rajouter des matchs.
Ça finira comme en NBA avec des matchs tous les trois jours de l'année.
C'est ça.
Donc on verra, mais en tout cas voilà, on va suivre particulièrement les 4 matchs de Ligue des Champions de cette semaine pour voir comment nos clubs français vont se comporter dans cette première échéance européenne. On va enchaîner avec de la Formule 1, c'était ce week-end le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui se tenait donc à Bakou, et c'est l'Australien Oscar Piastri qui l'a emporté, Grégory Sirgue.
C'est ça, le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui était un Grand Prix un peu particulier à suivre pour les Calédoniens cette année. Toujours un plaisir de regarder ce Grand Prix. C'est un circuit qui est particulier, qui est très rapide, mais qui est en même temps sinueux. Il y a des virages à angle droit sans aucune visibilité, donc c'est dangereux. En plus, par la particularité que c'est un circuit urbain, donc qui est par définition étroit, faut imaginer qu'ils montaient à des vitesses de 350 km/h quand même quand ils étaient en pleine aspiration avec le DRS. Un Grand Prix qui a été très plaisant à regarder, puisque qu'il y a eu de la bataille aussi bien pour la victoire que pour toutes les places du podium et même pour la 4e et 5e place pendant toute la durée du Grand Prix finalement. Piastri gagne parce qu'au culot, il a eu le culot que Leclerc n'a pas forcément eu en lui faisant l'intérieur dans un virage. Ce que Leclerc a rechigné à faire pendant tout le Grand Prix, il attendait d'avoir un moment un peu plus opportun, plus prudent.
Pour ne pas partir à la faute.
Pour ne pas partir à la faute justement. Et c'est son coéquipier Sainz qui, dans l'avant-dernier tour, part à la faute en resserrant Pérez contre le mur et les deux s'entrechoquent. Alors jusque-là, il y avait eu vraiment une belle bataille et tout le monde était assez fair-play, on va dire. Et ce qui fait que le Grand Prix s'est fini sous Virtual Safety Car, donc ça, c'était un petit peu dommage. Mais ça n'a pas enlevé au spectacle. Il y a eu, comme je le disais, à tous les étages de la bataille, même les rookies, donc Berman et Colapinto qui marquent tous les deux des points. Berman qui marque des points pour la deuxième fois consécutive, ce qui est assez rare pour un rookie.
Alors on l'a pas encore dit, mais Charles Leclerc a terminé deuxième de ce Grand Prix. Hein.
Charles Leclerc termine deuxième.
Il avait un petit problème avec ses pneus, voilà. Je crois, sur la fin.
Oui.
Hein. Voilà, donc il pouvait pas non plus
Disons qu'il a loupé le coche. Il y a un moment où il aurait pu le faire. Et à la fin, il a complètement perdu sa gomme, effectivement. Et Perez et Sainz allaient le repasser. Il l'avait repassé. Et juste après, quand eux deux se bagarraient, on va dire, pour la deuxième place, c'est là qu'il y a le crash. Et Leclerc en bénéficie. Et même Russell, d'ailleurs, qui ne s'attendait pas à finir sur le podium avec Mercedes, réussit.
Qui était derrière les deux protagonistes.
Il réussit à la monter à la troisième place alors qu'il était théoriquement censé finir cinquième, vu comment ça se passait.
Donc Charles Leclerc est toujours maudit sur ce circuit de Bakou, alors qu'il avait encore fait un très beau week-end.
Il avait encore fait la pole. Au départ, sur les séances d'essai qualificatives, il n'était pas forcément satisfait. Mais après, en qualif, il a réussi à bien...
Quatrième.
À bien remonter.
Voilà, quatrième pole consécutive.
C'est ça.
À Bakou, pour lui. Donc, c'est un circuit qu'on peut dire, hein, qu'il aime, qu'il apprécie. Et puis, voilà, on a donc Russell, vous l'avez dit, qui est devenu quatrième sur Mercedes. Et Norris qui prend une belle cinquième place en étant parti en fond de grille.
À Norris qui finit quatrième même, qui a fait un super grand prix. Il part 15e. Et il a une stratégie qui a été assez payante puisqu'il a fait qu'un seul arrêt pendant la course. Et il a une gestion des pneus qui a été vraiment excellente, puisque même à mi-course, il a réussi à retrouver du rythme et il avait des meilleurs temps que ceux qui étaient en tête avec des pneus plus frais. Donc ça, c'était assez
surprenant.
Comment dire, assez surprenant, voilà. Et après, quand il fait son arrêt, là, il change de gomme et il a retrouvé du rythme jusqu'à la fin. Il a même pu aller chercher Verstappen qu'il a vraiment avalé complètement quand il a voulu le passer. Donc ça, c'était vraiment... vraiment intéressant à suivre. Et puis je crois qu'il collait quasiment une seconde et demie autour à Verstappen quand il lui est remonté dessus. Donc
alors que c'était... se passe-t-il avec Max Verstappen? Donc il fait cinquième de ce Grand Prix, mais on le sent en retrait depuis un certain nombre de Grands Prix.
Il fait cinquième, il a passé le week-end à se plaindre de la voiture, à se plaindre de la façon dont le team travaille autour de lui, donc c'est assez bizarre.
C'est le cinquième ou sixième Grand Prix consécutif où il ne gagne pas, on a un peu perdu l'habitude.
C'est ça, c'est étrange à suivre. C'est lui, le week-end dernier, qui disait qu'ils ont transformé la meilleure voiture du plateau en monstre. Donc tellement il ne comprend plus la voiture. Est-ce qu'ils ont loupé des améliorations qu'ils ont apportées qui au final n'améliorent pas la voiture? C'est un peu
étrange.
C'était
la plus rapide quand même jusque-là.
Elle était absolument imbattable. Et là, patatras, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et même Perez était devant lui, ce qui arrive rarement, même si Perez, on sait qu'il adore les circuits urbains. Mais le fait que Perez soit devant lui et que ça ne se passe pas très bien dans l'équipe, plus Newey qui s'en va de Red Bull l'année prochaine, ça fait beaucoup d'éléments ensemble.
Voilà, on sent qu'il y a un petit peu de tension dans cette écurie désormais. Hein. On sent que la sérénité qui était là depuis de nombreuses années a disparu visiblement.
C'est ça. Parce qu'il y a une machine parfaitement huilée et là, il y a des petits grains de sable qui font que tout se grippe.
Donc on suivra avec attention le prochain Grand Prix, mais là quand même l'information du week-end, c'est que McLaren est désormais en tête du championnat du monde des constructeurs.
Oui, McLaren qui a 20 points d'avance sur Red Bull, et eux-mêmes qui ont 20 points d'avance sur Ferrari, donc en 40 points, on a 3 teams qui se tiennent, sachant qu'une victoire c'est 25 points,
voilà.
Ça promet beaucoup de suspense pour la suite de la saison.
Il reste quoi là, 6 Grands Prix?
Un petit peu plus, puisque le calendrier est quand même très chargé
8,
cette année.
8 me semble-t-il, 7 ou 8. Et puis on a au classement, alors Verstappen finalement sauve les meubles malgré tout, puisque Norris est juste devant lui, donc il reprend très peu de points. Donc on a toujours 60 points, quasi 60 points d'écart entre Verstappen et Norris. Mais il y a un resserrement pour la deuxième place, puisque Leclerc est à 235 points pour 254 à Norris, et Piastri est à 222 points à la quatrième place. Donc ce championnat du monde des pilotes est aussi complètement relancé.
C'est ça, la saison, elle est loin d'être finie. On n'est plus sur des saisons qui... Parce qu'on en parlait lors d'un débat d'une émission précédente où c'était est-ce que la surperformance, entre guillemets, va tuer l'enjeu de la Formule 1? Et là, on voit bien que non, en fait, les saisons sont très longues. Les saisons ne se ressemblent pas l'une de l'autre. Donc ça nous promet encore pas mal d'enjeux et pas mal de suspense pour la suite.
Bon, on va suivre ça avec attention, mais effectivement, la Formule 1 a visiblement retrouvé, aux yeux du grand public, en tout cas un peu d'intérêt. On n'est plus sur un sport où, à la fin, c'est Verstappen qui gagne.
C'est ça. Bon. Et en plus, le week-end prochain, il y a de bonnes chances que ce ne soit pas lui qui gagne, parce que je ne crois pas qu'il ait déjà gagné le Grand Prix de Singapour. Perez, oui, son coéquipier. C'est un Grand Prix de nuit, il y a beaucoup de risques de pluie. c'est très très éreintant pour les pilotes, donc là aussi ça nous promet une belle bataille le week-end prochain.
Et comme on a le sentiment qu'il a un peu aussi perdu la confiance au-delà de la voiture qui est moins performante, c'est pas, les conditions sont pas réunies pour que Verstappen reprenne le lead.
C'est ça.
Bon, à suivre donc dès le week-end prochain, dans 15 jours.
Tout à fait. Non, le week-end prochain, c'est Singapour.
Ok. Messieurs, on va passer, si vous le voulez bien, au débat de cette émission. Donc cette semaine, c'était la fin des cérémonies liées aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Et donc le président Emmanuel Macron a déclaré vouloir créer une fête du sport qui aurait lieu tous les 14 septembre pour célébrer la fête sportive qu'ont été ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes plutôt favorable à cette idée ? Est-ce que vous trouvez que c'est une hérésie ? Dites-nous, faites-nous part un peu de ce que ça vous inspire.
Bon, alors sur le principe, une journée du sport, forcément vendue comme ça, oui, on peut être que, enfin en tout cas moi je peux être que favorable. Après, il faut voir la forme qu'elle prend. Qui on y associe
L'idée de départ du président est donc de dire, un peu à l'instar de ce qui se passe pour la fête de la musique le 21 juin. Voilà. C'est vraiment d'avoir dans les rues des activités sportives, dans les clubs des activités sportives, d'être sur un moment où toute la France se met à faire du sport comme toute la France se met à faire de la musique le 21 juin.
D'accord, bah oui, sur le principe, encore une fois, pourquoi pas. Après, déjà, en termes de calendrier, ça me paraît bizarre. Ça correspond à peu près à une période de rentrée en métropole, ça fait 2 semaines après la rentrée.
C'est ça, donc c'est un des arguments avancés pour inciter les gens à s'inscrire dans les clubs dès la rentrée. Clubs.
D'accord, bah écoutez, ouais, encore une fois, pourquoi pas. Moi, j'attends de voir un petit peu le retour des différentes ligues et fédérations concernées. J'aimerais bien savoir aussi dans quelle mesure ce serait sympa de savoir si on y associe le corps enseignant pour la partie EPS, qui aurait peut-être son mot à dire aussi. Les premiers à dissiper des cours de sport, c'est quand même eux dans les collèges et lycées ou écoles. Donc j'espère qu'ils sont associés à cette réflexion. Mais oui, encore une fois, sur le fond, pourquoi pas. Après, il faut voir la forme.
Jean-Michel Lavigne.
Bah, je pense que le président a voulu surfer aussi sur la dynamique qu'avait occasionné donc les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer, aussi bien paralympiques que je salue, hein, ces sportifs qu'on a vus à la télé et faire des exploits pas possibles. Enfin voilà. Donc après, pourquoi pas. Mais enfin, c'est presque un peu facile pour moi. Comme annonce, c'est pas non plus.
C'est, vous êtes en train de dire que c'est une annonce politique quasiment.
J'ai pas dit ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez.
Alors, il y a quelqu'un d'autre qui est votre avis, c'est Sarah Pitkovski, qui est une ancienne joueuse de tennis donc féminin, et qui a dit c'est une vitrine pour faire beau. Je vais la citer dimanche matin sur nos confrères d'RMC. Elle a dit l'argent qu'on voudrait mettre là-dessus, donnez-le aux associations, donnez-le au sport pour tous, mais arrêtez d'empiler comme un millefeuille de pseudo-journées pour sanctuariser une fête nationale du sport, alors qu'on a déjà des rendez-vous qui existent, qui ne sont peut-être pas connus, mais qui ont une vraie vocation, a-t-elle suggéré. Donc voilà, donc on a un avis d'une ancienne joueuse de haut niveau qui est plutôt contre. Grégory Sirg, qu'est-ce que...
Je partage plutôt cet avis-là. Sur le principe, pourquoi pas une journée festive, etc. Mais est-ce que si on cherche à renforcer la pratique sportive en France, c'est vraiment le fait d'organiser cette journée qui va faire quelque chose ? Est-ce que c'est pas plutôt... on élargit le sujet, mais... rembourser la pratique sportive parce que les gens tombent moins malades, etc. et ça les incite à faire du sport. Est-ce que c'est pas plutôt de rendre les... Enfin, il y a des cours de sport déjà à l'école, mais est-ce que ne pas faire plus d'heures de sport par semaine, faciliter le sport gratuitement pour les enfants après l'école. Ça, enfin, il y a tout un tas de dispositifs.
L'idée à payer les licences, mettons, effectivement, pour... Parce qu'en fait, ce qui fait aussi barrage... plein de fois, c'est le fait de ne pas pouvoir payer sa licence. Ça dépend d'où tu viens, qui tu es, ce que font tes parents ou non. Donc, voilà.
Alors, il y a de plus en plus de dispositifs, malgré tout, qui existent pour couvrir la licence pour les gens les moins aisés. Mais ça rejoint un peu des déclarations de certains sportifs de haut niveau qui disaient... la France n'est pas un pays de sport. La France n'a pas une culture de sport. Claude Onesta l'a dit, de nombreux autres sportifs l'ont dit. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas aussi pour inciter les Français à se mettre un peu plus au sport, essayer d'inciter les enfants à être un peu plus sur une démarche, et les parents d'inscrire les enfants sur une discipline sportive plus tôt que ce qu'ils ne le font, ou qu'on laisse les enfants découvrir des choses. Est-ce que ça ne peut pas avoir une vertu de découverte aussi.
Oui, encore une fois, oui, si, ça peut forcément déclencher des vocations chez certains. Mais après, encore une fois, est-ce qu'on est sur... c'est là le cœur de la question, c'est est-ce qu'on est sur une déclaration politique, comme on vient d'en discuter, ou est-ce qu'il y a un vrai travail de fond qui va être fait en y associant, encore une fois, les différents partenaires que sont les fédérations, les ligues, et encore une fois, les professeurs d'EPS de collège et lycée, parce que c'est eux qui sont premières... qui sont au premier contact des pratiquants. Donc c'est ces gens-là qu'il faut sonder, et c'est ces gens-là qu'il faut aider pour qu'on puisse trouver les moyens de faire pratiquer plus de sport en France. Après, encore une fois, j'attends de voir. Ça ressemble quand même à un gros effet d'annonce, quoi, tout simplement.
Bon, c'est ce qui n'est pas illogique au vu du timing choisi.
Et si l'idée de la journée, c'est de dire la France n'est pas un pays de sport, mais en comparaison facile aux États-Unis qui sont plus un pays de sport. Les États-Unis, c'est un pays de sport parce qu'à tous les niveaux, c'est l'esprit de compétition qui l'emporte. Il n'y a qu'à voir les championnats universitaires, il y a 50 000 spectateurs à chaque match, etc. Pardon. Nous rinquons en top 14 ce week-end, il y avait le Racing Métro qui jouait délocalisé, il y avait péniblement 4000 personnes dans la tribune, alors qu'on parle d'un club qui joue la Coupe d'Europe de rugby.
Voilà, et l'élite du rugby européen, c'est quasiment.
Donc c'est même pas une histoire de pratique, c'est rien que dans la mentalité. Déjà, est-ce que les gens sont attirés par pratiquer du sport, mais aller le voir aussi, il y a tout ce sujet-là à ouvrir.
Alors, c'est voilà, pour peut-être un peu continuer, clore sur ce débat, est-ce que c'est pas aussi un moyen de faire découvrir des sports, justement, d'être dans une optique de dire, voilà, des sports qui sont moins médiatisés, voire pas médiatisés du tout, et qu'on permettrait à des jeunes de découvrir. C'est aussi un peu ce qui s'est passé, je prenais l'exemple de la fête de la musique, de sortir un petit peu chacun ses instruments dans la rue et de se rencontrer et de voir comment on pouvait faire des choses, et que bah, finalement chacun fasse découvrir sa discipline à l'autre, et des disciplines beaucoup plus marginales comme le roller par exemple ou des choses comme ça. Donc est-ce que ça pourrait pas avoir ce genre de vertu aussi, encore une fois, et je l'entends ce que vous dites, il faut que ce soit encadré et un peu plus éclairé que cette simple déclaration, mais il peut y avoir une vertu sociale et sociétale.
À partir du moment où on met des gens autour d'un ballon, d'une balle ou quoi, forcément ça crée du lien. Donc oui, ça c'est forcément bénéfique. Après, encore une fois, on va être rapidement limité. Je pense par exemple au sport automobile. Je pense pas qu'on mette des kartings dans toutes les villes à disposition pour que les jeunes puissent essayer le karting. Donc, patin à glace, voilà, c'est pareil. Il y a des régions, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Donc oui, sur le principe, encore une fois, oui. Mais je pense qu'il y a des choses qui, comme le disait la dame que vous citiez tout à l'heure, l'ancienne...
Sarah Pitkowski.
Merci. Il y a déjà des choses qui sont en place, notamment on parlait du rugby tout à l'heure avec Jean-Michel, la pratique de rugby dans certains quartiers, souvent l'été, il y a des différents clubs qui vont prospecter dans les quartiers pour faire connaître le rugby et pratiquer le rugby. Donc il y a déjà des choses comme ça qui sont mises en place.
Donc il ne va pas falloir se substituer aux pratiques aux actions fédérales de développement.
Exactement.
Quelle que soit la discipline.
Il faut s'appuyer dessus, et c'est les gens de terrain qui doivent faire remonter leurs besoins, et pas le contraire. C'est pas, enfin, de mon point de vue.
Et donc être écouté par les instances politiques pour qu'elles viennent en aide à ces clubs-là, pour pouvoir recevoir effectivement gratuitement, entre guillemets, lors de cette journée, la découverte de différents sports.
Oui, je rejoins totalement l'avis des deux camarades. Là, c'est que les clubs et les fédérations organisent déjà des journées de découverte. Donc est-ce que c'est un doublon comme on adore en faire, ou est-ce qu'on vient renforcer la démarche et les accompagner à mieux la faire?
Bon, eh bien, je crois qu'on tient un sujet pour le futur ministre des Sports qu'on ne devrait pas tarder à connaître. Mais je crois qu'il a déjà, un premier sujet qui va arriver sur son bureau. Messieurs, le temps tourne, et je vais vous demander, exceptionnellement aujourd'hui, deux coups de cœur, si vous le souhaitez, pour terminer cette émission. Grégory Sirg, je vais commencer par vous.
Moi, je vais commencer par un coup de soutien à l'URC d'Imbéa, à tous leurs bénévoles, les dirigeants, tous les joueurs qui ont eu une nouvelle fois ce week-end leurs locaux et leur matériel qui ont été incendiés. Il n'y a absolument rien qui peut justifier ça, parce que le sport, c'est le meilleur ascenseur social qui existe. On voit plein de jeunes de quartier qui deviennent des stars, stars mondiales, quoi. Et il y a des jeunes d'ici qui ont pu devenir des stars du rugby, par exemple Mauvaka, pour ne pas le citer. Et ça permet de donner un cadre également à des jeunes et de créer le vivre ensemble. Donc un gros coup de soutien pour eux. Et en coup de cœur, une fois n'est pas coutume, à toi Olivier directement, pour avoir repris cette émission au pied levé sur RB, qui permet à tous les fans de sport calédoniens de garder une émission de sport à l'antenne. Voilà.
Merci. Jean-Michel Lavigne, vos coups de cœur ?
Alors moi, ça serait l'hommage rendu à ce jeune joueur toulousain, Mehdi
Narjizi.
Narjizi, ce matin, où tous ses potes de l'équipe junior, ses parents, le courage qu'ils ont de venir aussi lors de ces moments affreux. Donc voilà, c'est le coup de cœur que je viendrai mettre en avant.
On rappelle simplement que donc, ce jeune a disparu au large des côtes sud-africaines en tournée avec l'équipe de France voilà, junior. Et on n'a toujours pas retrouvé son corps.
C'est ça. Un deuxième
coup de cœur.
Le premier point des 20 qui ont fait un super match contre le Stade français. Donc leur premier point. Et puis donc un coup de chapeau à ce rugby breton. Qui vient faire sa place dans le milieu.
Sur l'échiquier français du rugby.
Bien tenu par le Sud-Ouest.
Merci Gabriel. C'est qu'on va terminer avec vos coups de cœur.
Le premier, c'est sur le match de Nice, hein, les 125 ans du club olympique de Marseille. Donc voilà, un gros coup de cœur là-dessus pour tous les fans et supporters qui suivent ce club emblématique. Et donc le deuxième, c'est un peu plus local. Donc comme vous le savez, je suis secrétaire de l'association des supporters de l'OM en Nouvelle-Calédonie. Et on a organisé hier, dimanche 15 septembre, notre première journée cohésion, avec une trentaine de participants. Donc je tiens à remercier tous les membres de l'association et mes collègues du bureau pour cette journée qui était très sympathique.
Bon, eh bien, c'est bien noté. Merci à tous les trois pour cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine sportive.
Merci.